sinon tu vas entendre que dalle.
Ouais. Voilà.
Voilà. Alors, Beast of Flesh, vous êtes passé récemment à Rennes, au Mondo Bizarro.
Exact.
C'était une soirée.
Pour quelqu'un à l'arrache, t'es quand même bien renseigné.
Ouais.
Oui, enfin, parce que j'habite à Rennes.
Ah, d'accord.
Et bah, en Couprod qui vous a joué, on était partenaires jusque-là.
D'accord.
Et on l'est plus.
Jusque-là.
C'est jusque-là le moins important.
Et on l'est plus.
Et est-ce que c'est bien à cause de nous? Dis-moi.
Et non, non, pas du tout à cause de vous, parce que c'était prévu que je vienne faire des photos, hein, comme je faisais.
Ouais.
Jusque-là, pour mon coup prod, quoi, je venais sur les soirées faire des photos, je publiais mes galeries photos sur Culture Metal, mon webzine. Et là, on s'est fâché parce que j'ai lancé un jeu concours pour faire gagner des places. C'était une manière de faire de la promotion pour l'événement.
Ouais.
Et ça leur a pas plu, donc on s'est fâché. Donc, alors, c'était un coup à la Manowar.
Mais Manowar, ils vont leur prendre à 50 balles, pas nous.
Ouais, mais après, Manowar, c'était une engueulade à 200 000 euros. Mais ouais, on est dessus. Alors,
après, je vais pas répondre parce que, ou bien.
Il n'y a pas de question en fait.
Mais j'ai envie de dire un truc parce que.
Mais te...
je me tais. Vas-y.
Mais.
C'est un gros copain.
Oui, on en a parlé.
Moi, désolé, j'avais dit, tu couperas.
Et bah, on fera gagner des t-shirts de Bliss of Flesh pour le prochain concours.
Et à chaque fois que j'ai joué à Rennes, je suis tombé sur des cotorettes. J'ai joué il y a 20 ans,
au
Mondo Bizarro. Ah oui, donc je devais déjà être un peu bourré, parce que je m'en rappelle pas.
Tu m'en as parlé vendredi soir.
Ah, désolé, bah voilà,
voilà,
okay, ça c'est fait.
On est bien d'accord, non, mais voilà.
Donc,
bon, bref,
les bases sont posées.
Je n'ai pas fait de photo de votre concert Mondo Bizarro. Bah là j'ai un photographe pour Culture Metal qui était entre les deux scènes, Altar Tamgol,
ouais.
Quoi, donc bon,
cool.
je lui ai pas demandé encore si vous avez photographié parce que mais j'espère qu'il l'a fait. J'espère qu'il y aura des photos
on l'espère aussi,
de Beast of Flesh par Culture Metal. Du coup on va revenir un petit peu sur votre parcours, quoi.
L'origine, Genesis. Alors,
si cardinal.
Le groupe est né en 1999 dans les terres froides du Calaisie. Et par la suite, le line-up a légèrement évolué. Nous avions donc deux guitaristes, donc un qui s'est barré. Flesh Stigma à la batterie qui est toujours d'actualité. G-Poison à la basse qui est toujours d'actualité. Et moi en tant que monde fondateur du groupe, Sick Cardinal. Puis Nekurat est arrivé en 2006, pardon. Nous avons eu Pandemic pendant de longues années, qui nous a apporté énormément pendant toutes ces années de composition et de travail, notamment sur les trois full lengths qu'on a pu faire et composer, à savoir la trilogie sur la Divine Comédie de Dante avec MST Deity, Beatima Opera Spiritu et enfin Empyrean. On a tenté de progresser à chaque fois sur chacun des albums. Je pense qu'à priori ça se ressent de toute façon à l'écoute, sur bien des aspects. Et dernièrement, donc, nous avons donc perdu Pandemic qui a choisi de quitter le groupe pour revenir à ses premières amours, à savoir couper du bois. Il avait envie d'aller
couper
du
bois. C'est pas la danse classique,
non ? Non, c'était du bois.
Danse de salon,
c'était du bois. Et on a donc recruté Victus, au nouveau gratteux, qui apporte maintenant énormément au groupe. Et cette année est une année charnière pour nous, parce qu'il se passe pas mal de choses qui nous permettent de gagner un peu plus en notoriété, donc ça fait beaucoup de bien. Et également, d'un point de vue plus personnel, au niveau de la composition du nouvel album, qui devrait sortir en janvier 2020 chez Listenable, qui est pour nous un album qui nous fait enfin atteindre le palier qu'on souhaitait atteindre depuis de nombreuses années, à savoir être content absolument de tout avec une intensité, etc. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais
Je rebondis sur ce qu'il dit parce que concrètement, ce qu'il dit, c'est pas original pour un son.
Non, mais
tu ouvres n'importe quel magazine de merde, tous les icos te racontent la même merde, et la seule différence, c'est que nous on croit dans la merde qu'on raconte. Et je précise.
Alors, on va dire que peut-être que les autres groupes y croient aussi. Mais
j'en ai rien à branler, ça me saoule quand j'achète ces magazines de merde. Vas-y, raconte.
Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est parce que Culture Metal, en fait, bah, l'idée de mon webzine, en fait, c'est de faire le lien, en fait, entre les musiques extrêmes et les autres formes d'expression artistique, comme la littérature, par exemple.
Ah, bien. Et ça me parle énormément.
Très bien.
Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est Dante.
Ouais.
Parce que bon, dans le métal, on est très inspiré, en fin de compte, par Tolkien, enfin par tous et Dante. Et d'ailleurs, j'ai une contributrice à Culture Metal qui a écrit un article sur Dante dans le métal,
ah ouais,
qui a même inspiré jusqu'à cette culture. Ouais,
ouais, c'est bien les aspects. Ouais,
Et du coup, bah, voilà, est-ce que vous pourriez développer en fait bah, votre.
Alors, dans Taligliari, on avait fait déjà une référence sur un des premiers EP qu'on a pu faire avant de sortir un full lens. On fait déjà une petite. À un moment, il y a une espèce de sample qui fait une référence à l'inscription qu'on peut.
C'est
bon. Référence à l'inscription qu'on peut trouver sur la porte des enfers. Vous qui entrez en ces lieux, abandonnez tout espoir, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce roman, avec cette trilogie qui se veut politique, on va pas se mentir, La Divine Comédie, c'est avant tout un ouvrage politique, un pamphlet politique. Parce que derrière ça, en fait, Dante a créé quelque chose qui ressemble énormément à la forme du parcours initiatique qu'on voulait nous retranscrire dans la musique. On pouvait voir notamment dès le premier album et du concert qu'on a fait tout à l'heure, où si tu prêtais attention au backdrop, de chaque côté du backdrop, tu avais écrit « Humiliation, Suffering, Climax », qui passe d'abord par une période d'humiliation, souffrance et orgasme, c'est-à-dire que ce parcours initiatique se retrouve dans les trois parties qu'on peut avoir dans la Divine Comédie, sur bien des aspects. Être capable de laisser de côté... Enfin déjà, commencer par faire face à ce qu'on est véritablement, un regard porté sur les miasmes qu'on a nous-mêmes, ce qui remet déjà en cause beaucoup de choses. C'est déjà un doute cartésien que peu de personnes font. On est dans une telle vitesse maintenant actuellement, on se pose rarement pour se demander vraiment un qui nous sommes et comment on se place dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Puis par la suite, réussir à surmonter ce regard qu'on a sur nous, qui n'est jamais véritablement plaisant. Parce que si on regarde qui on est tout sauf extrêmement positif. On est un mélange d'ombre et de lumière, donc tout ce paradoxe-là, il faut être capable de l'accepter, déjà, et ensuite de le sublimer, de surpasser, pour en faire quelque chose qui peut prendre une forme artistique. Et alors c'est marrant parce que tu me parles de ça, et notamment tu me parles d'art, et je pensais à André Gide, la citation que j'étais tout à l'heure, qui disait « L'art n'est de contrainte, vie de lutte et meurt de liberté ». Toute cette forme-là d'appréhension de l'art comme étant naissant d'une contrainte qui est celle qui est, au final, ni plus ni moins que celle de ta raison, que tu vas réussir à surpasser par la suite par ta forme artistique, la musique, nous, en ce qui nous concerne, faisait que Dante nous apparaissait comme une évidence par rapport à ce qu'on voulait faire musicalement. Donc c'est très confus ce que je viens de raconter. Ça, on le trouve dans aussi pas mal de webzines, tu vas me dire.
Non, mais au-delà, non. Au-delà de ça, le truc, c'est que par rapport aux différents ouvrages qu'on utilise pour s'en servir en tant qu'inspiration ou en tout cas de ligne directrice pour la composition, l'idée, c'est vraiment de saisir dans un ouvrage qui est déjà exploité, surexploité, la substantifique moelle qui va permettre de nourrir notre concept qui est Beast of Flesh. Peut-être que c'est. Comment dire c'est...
Après, je trouve pas que Dante était si surexploité que ça. Hein.
Oui,
il est utilisé dans le métal en tant que
dans le métal, il est souvent utilisé.
Mais prendre la Divine Comédie dans l'ensemble comme étant une ligne directrice qu'on peut avoir pour une conception à la fois culturelle et musicale, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup de groupes qui ont fait ça.
Bah, moi, je sais que Dante, enfin, je le vois assez souvent dans des groupes qui sont.
Dante en référence, mais c'est très compris, c'est l'enfer. Mais,
oui.
Démerde-toi
oui.
Avec le purgatoire, ouais, pour c'est merci là-dessus.
Bah non, le purgatoire est une chose, mais le paradis, ouais, surtout, parce qu'en Pyrénées, le paradis, ça a été.
Le vrai challenge, c'était le paradis.
C'était le paradis, ouais.
Mais cette gageure était formidable, parce que réussir à.
Oui.
Je le disais tout à l'heure, partir de contraintes, pour réussir à sublimer la chose, le paradis, c'était magnifique. On est assez content, parce que justement, je trouve qu'en Pyrénées, sur les trois, est celui qu'on a le mieux réussi.
Clairement. Ouais, clairement.
C'est vrai que Camille, quoi, Camille, c'est quelqu'un qui est en train de faire une thèse sur la place et la fonction de la littérature dans le métal. Et j'ai rencontré Camille sur le Metal Culture,
à Guéret.
Ouais. Et donc je lui ai demandé si elle était d'accord de m'écrire des articles en fait pour Culture Metal. Et elle m'a dit qu'elle est. Et elle m'a écrit un article. Le seul article qu'elle m'a écrit jusque-là, c'était relire Dante par le métal. Et elle a dit bah je ne vais pas prendre Tolkien ou Lovecraft, enfin je Dante. Et mais du coup. Il y a une réelle continuité en fait entre l'article de Camille et l'interview d'aujourd'hui sur métal.
Alors en même temps, pour ne pas nous avoir Camille à dos qui pourrait s'insurger de ce qu'on dit à l'instant, il faut bien comprendre qu'on a fait notre propre réinterprétation de notre lecture de Dante et qu'on a totalement occulté une énorme partie de l'ouvrage. Je te parlais de la partie politique notamment, mais c'est un véritable pamphlet écrit par Dante pour le coup, la forme poétique aussi en elle-même, qui se veut aussi abscons à différents moments, certains passages qui sont tout sauf bien réussis, il faut le dire, tout n'est pas agréable dans la Divine Comédie de Dante, mais on en a tiré, nous, ce qui nous parlait le plus. Et c'est vraiment cette dimension de parcours initiatique qui de trois paliers. Et puis toute la thématique qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans cette vision du paradis et de l'enfer, qui, en termes de mythologie, qui est extrêmement inspirée de Dante. finalement, l'image qu'on a encore aujourd'hui d'un enfer flamboyant est totalement fausse par rapport à ce que Danton disait. Satan est emprisonné dans de la glace. Mm-hmm. Cette image-là qui prend un peu à contre-courant ce qu'on peut trouver, en sachant que toute l'image du diable vient aussi de l'évolution qu'on peut avoir de la mythologie grecque, partant du dieu Pan, représenté avec l'image de chèvre, enfin de bouche, pardon, mélange, etc. Énormément de sources se mélangent pour finalement essayer de créer une sorte d'univers mythologique propre à celui qu'on utilise aujourd'hui, en oubliant les références desquelles on s'est inspiré. Et ça fait du bien parfois de regarder d'où on vient pour savoir où l'on va. Ça, par contre, on trouve dans beaucoup de webzines.
Et est-ce que vous utilisez une traduction en particulier de Dante?
Moi, j'ai utilisé la traduction utilisée par Flammarion, que je trouve une des meilleures.
Mais vos textes, vous les écrivez en anglais?
Oui.
Ouais.
Donc du coup...
Mais le truc, c'est que je fais de la musique avant tout, je suis pas en train de faire une disserte, tu vois.
Oui.
Et dans l'idée, moi, c'est mon interprétation,
moi,
ma lecture. Lui, il fait de la disserte. Ouais. Mais ça, je m'en branle. Il est guitariste, moi, je suis chanteur. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné...
Mais qui écrit les textes, alors?
Moi. Lui, il va se branler la nouille sur Dante.
Ouais, c'est bien. Vrai. C'est mon truc.
Et moi, je vais prendre Dante pour me branler la nouille, ce qui, pour moi, est différent. C'est-à-dire que je me nourris vraiment de l'ouvrage pour l'emmener dans mon univers. Et donc, c'est vraiment... dans ce sens-là, une interprétation, et pas je suis pas en train de faire un mémoire. Mais pour Empyrène, j'ai eu la même rigueur que j'ai pu avoir pour rédiger des mémoires. Pour rédiger un mémoire.
Ouais,
donc vraiment des contraintes, un contexte très particulier où moi il a fallu que je me mette dans un état d'esprit où, ce que je disais tout à l'heure à des collègues à toi.
Tu es obligé d'avoir cette cohérence par rapport à la référence que tu exploites.
Oui,
tout à fait. Hein.
Mais il a fallu que je me mette en mode un peu dans mon monde, c'est-à-dire pas écouter de musique, pas voir beaucoup de monde. Et écrire vraiment comme un mémoire, c'est-à-dire que tous les mots que j'ai utilisés pour écrire l'album, je ne les ai pas utilisés par hasard.
Oui.
Et je les ai utilisés non seulement pas par hasard, mais pas non plus à n'importe quel moment de l'album. Et donc il y a vraiment un cheminement qu'on retrouve dans Dante, où avec ce côté, il se passe quelque chose. Et nous, enfin moi je suis musicien avant d'être philosophe, même si j'apprécie fortement la philosophie. Mais il faut vraiment que la philosophie me serve pour ce que j'ai à faire au niveau artistique. C'est pour ça que je dis, enfin, de manière un peu triviale et cavalière, que je m'en branle un peu de tout ça, c'est-à-dire que moi je me nourris vraiment de ça. C'est lui qui est à ma botte et pas l'inverse. Mmh. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas c'est comme ça.
C'est bien.
Là on est au Hellfest, on va revenir un petit peu quoi,
sur
le Hellfest. C'est votre première Hellfest?
Oui. En tant que festivalier, spectateur.
Non, en tant que groupe.
Ouais.
À jouer sur.
Oui, je plaisante.
Ah, moi, c'est mon premier tout court.
Ton premier Hellfest.
Il faut savoir que lui, s'il avait pu faire son concert Hellfest en Wi-Fi dans sa baraque, il l'aurait fait.
Alors, non, parce que j'aurais quand même été présent sur scène.
Ah.
Par contre, on avait
pris un hologramme.
Ça, à la limite. En même temps, voir le public, ça m'aide aussi. Même si je le capte pas trop dans la vue dans laquelle on est, mais au moins pouvoir leur cracher à la gueule.
Ouais, c'est trop bien.
Non, me déposer en hélicoptère, j'aimais bien l'image. En hélicoptère, me mettre après dans un van et me rentrer chez moi, ça m'irait.
Ça, fallait jouer l'artiste.
T'es resté les 3 jours?
Non,
t'es juste venu pour...
Il est arrivé hier. Et il repart demain.
Vous avez passé les 3 jours, peut-être même les 4.
Moi, pour ma part, je suis arrivé vendredi. Et j'ai fait un peu n'importe quoi vendredi parce que j'ai vu plein de potes et c'était cool. Et même si c'est pas très Satan et très blague, j'en ai rien à branler. Et hier, je suis pas venu. Parce que j'avais pas envie de voir les gens, il fallait que je sois dans mon truc. Et je suis revenu aujourd'hui, et là, à part avoir été sur scène et voir que des journaleux, j'ai vu personne.
Vous n'êtes pas sorti sur l'autre côté?
Non.
Mais...
je sais même pas quel groupe joue, je veux juste voir Empereur et le reste, je m'en branle.
Mais le problème du Hellfest, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et
pour ma part,
dès que je sors de l'autre côté.
C'est la première, c'est la première année où je joue, mais c'est pas la première année où je viens au Hellfest.
Vous avez d'autres dates de prévues
On joue en juillet, on a le 12 juillet en Belgique, à la MCP à Pache à Fontaine-l'Évêque, et le 13 juillet au Forest Fest en Suisse. Avec des groupes genre Dark Nocturne Shelter Cult et Toké. Et après on joue le 14 juillet à Paris, au club. Après on reprend à la rentrée, on joue le 28 septembre à Brest. Avec More Cult, je crois, un groupe de Black
Pagan. D'accord, c'est Deathstroke qui organise.
C'est ça.
Alors eux, au niveau orga, c'est pas en coup de prod.
Je pense, j'ai le gars, ça se voit.
Oui. Ah.
Donc là, et après on joue le 4.
Vite pour glisser un bon taquet, je
Ouais, mais j'ai rien à branler, moi, c'est bon, il... Fuck. Et le 4 octobre, on joue à Wingles, Springles, tout ça dans le Nord. Plus un festoche. Et ensuite, d'autres dates vont arriver, mais on est en train d'essayer de construire des choses pour promouvoir en mieux le futur album. Voilà.
Super.
Cool.
Yep. Bah, du coup, je vais pas vous retenir.
Mais c'est nous qui te retenons.
C'est-à-dire que là, on est en train de se dire que maintenant, on va peut-être pouvoir vraiment.
On va pouvoir peut-être boire un coup.
Ouais.
Allez.
C'est cool. En tout cas, merci à toi, c'est cool.
Merci à toi,
merci
surtout
à
en impro.
Un truc à l'arrache.
Ouais.
Merci d'avoir pris de ton temps.
C'était un plaisir. 15 minutes en plus.